Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bonjour, je suis Clémence Bodoc.
Je suis Esther Meunier.
Vous écoutez Activiste,
une nouvelle approche de l'action politique.
Elle devrait être en classe.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. I am not a
believer in climate change. C'est papa et maman qu'on assassine.
Vous vous transformez en véritable chien de garde de la police de la pensée.
Le choc n'est pas un choc climatique.
Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
Oh, ça suffit, là.
On parle d'un million de Franciliens qui ont quitté la ville à l'annonce du confinement. Et demain, combien feront le chemin inverse? Si vous hésitez encore à prendre la route du retour, je vous en supplie, oubliez ça. Il n'y a plus rien à construire en ville, ce qui vaut vraiment la peine est là, sous vos yeux. Car dans toutes les grandes agglomérations flotte un même sentiment, la vulnérabilité. Après la canicule de l'été dernier, la pandémie, finalement c'est ça vivre en ville, devoir fuir à chaque menace, tous les 6 mois. Et vous qui avez passé 2 mois enfermés, par responsabilité pour ne pas propager le virus, pour un emploi qui ne se télétravaille pas, ou faute de point de chute ailleurs, où en êtes-vous? C'est ainsi que s'ouvre la lettre d'une néo-rurale au candidat à l'exode urbain. Une lettre d'abord publiée sur les blogs de Mediapart, puis reprise en tribune par Libération. Cette lettre est signée Claire Desmarres-Poirier, paysanne, activiste de la ruralité positive. Elle publiera cet été Exode urbain, manifeste pour une ruralité positive. Bonjour Claire.
Bonjour.
Bonjour Esther.
Bonjour.
Claire, j'ai beaucoup de questions, mais je voudrais qu'on commence par définir quelques-uns des termes que tu utilises. Ruralité positive, qu'est-ce que c'est?
Alors c'est une façon de définir la relation au territoire. On est en zone rurale toujours un peu déconsidéré. Il y a un sentiment qui est partagé par les ruraux, qui est celui d'être un peu des citoyens de seconde zone pour un moindre accès aux services, parce qu'on a des contraintes de vie qui peuvent sembler importantes, et puis parce que simplement, la ruralité, ça a toujours été un espace d'exclusion. Le citoyen, par définition, c'est celui qui appartient à la cité. Et quand on pose les choses de cette manière-là, depuis toujours en fait, il y a ce sentiment que le pouvoir, la légitimité, l'argent, l'emploi, c'est la ville, et la ruralité, c'est ce qui n'est pas la ville. Et d'ailleurs, quand on regarde dans un dictionnaire la définition de campagne, c'est ce qui est plat, donc ce qui n'est pas la montagne, et ce qui n'est pas la ville. Et en fait, pour moi, l'expression de ruralité positive, elle vise à reconsidérer la ruralité pour ce qu'elle est en soi et pas pour être seulement pas la ville ou pas la montagne ou pas la mer, ou pas quoi que ce soit quoi. Voilà. Et après il y a un autre enjeu, c'est qu'on l'a vu avec les gilets jaunes, il y a une colère en fait qui naît de ce sentiment d'être des citoyens de seconde zone. Elle est, pour moi elle est extrêmement légitime, peu importe la manière dont elle s'exprime, et qu'il y a une forme d'affirmation à avoir. Et de la même manière que plein d'autres luttes ont émergé, voilà, quand on est dominé, quand on ne se sent pas légitime, on a la nécessité d'affirmer que ce qu'on est légitime, en fait. Et que pour moi, la ruralité positive ou la rural pride, ben, c'est ça. Voilà.
Tu signes cette lettre ouverte justement du nom, comment dire, de la qualification paysanne activiste de la ruralité positive. Mais du coup, on se demande, tu fais quoi dans la vie? C'est quoi être une paysanne pour toi en 2020?
Alors, le terme paysan, il est utilisé volontairement parce que le terme d'agriculteur, il est un peu dévoyé et un peu associé mécaniquement à celui de l'agriculture industrielle. Donc aujourd'hui, ce que je fais dans la vie, c'est qu'avec mon mari, on a une ferme bio, on produit des plantes aromatiques et médicinales. On a une marque d'infusion qui s'appelle l'amande verte. Donc voilà, on fait des tisanes. Et sur notre ferme, on est un lieu agriculturel. Donc ça veut dire qu'on a développé une activité culturelle en parallèle de l'activité agricole. Et on a un café-librairie à la ferme dont je m'occupe. Et on accueille le public au jardin pour faire découvrir les plantes et pour des moments de spectacle vivant, de lecture. Voilà, on fait vivre la culture en zone rurale.
Tu signes notamment néo-rural, donc ça veut dire que c'est assez récent ce changement de vie. Qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui t'a poussé à changer de voie?
Je suis néo-rurale parce que je ne suis pas née ici. Moi, j'ai grandi à la campagne, mais pas dans cette campagne-là. J'ai grandi en Normandie et j'ai fait le choix de m'installer à la campagne. Donc, ce que j'appelle un néo-rural, en fait, c'est quelqu'un qui est à la campagne par choix. Benoît Coquart a écrit un très beau livre qui s'appelle « Ceux qui restent », parce qu'en fait, l'exode rural, c'est-à-dire le système inverse, hein, celui qui envoie un grand nombre de jeunes actifs de la campagne vers la ville, n'est pas terminé. Et qu'il reste encore, il y a encore beaucoup de jeunes qui partent pour leurs études et qui ne reviennent pas, en fait. Et ceux qui restent à la campagne sont souvent ceux qui n'ont pas choisi de rester, mais qui n'ont pas simplement l'opportunité de partir à la ville. Et donc, pour moi, la néo-ruralité, c'est la vie rurale choisie. Et ça, pour moi, c'est un truc vraiment essentiel. Je pourrais me définir comme rurale parce que j'ai grandi dans un village de 700 habitants et que... Enfin voilà, j'en ai les codes et je me sens à l'aise depuis l'enfance dans cet espace-là. Mais comme je suis passée par la ville et que c'est un choix, je me définis comme néo-rurale.
Et donc, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix de venir t'installer à la campagne ?
Il y a eu plusieurs étapes, mais moi, j'ai toujours eu ça en moi, quoi. C'est-à-dire, j'ai toujours eu le lien à la nature, quelque chose qui était vraiment très présent. Même quand j'étais en ville, j'étais très investie dans l'écologie, je me déplaçais à vélo et j'avais le besoin régulièrement d'aller à la campagne et de retrouver cette quiétude et aussi ce mode de relation sociale. Et enfin voilà, c'est un tout, quoi. Et donc voilà, après, ce qui est clair, ce qui a été le levier important pour moi, c'est qu'à un moment, il y avait une dissonance trop importante entre les valeurs que je portais et qui m'animaient et mon quotidien au travail, quoi. Et que... Donc, je travaillais au 7e étage d'une grande tour en verre. Je faisais des communiqués de presse, des discours, des trucs. Et en fait, ça n'avait aucun sens, quoi. Ça n'avait aucun sens. Par ailleurs, j'écrivais des trucs pour dire qu'il fallait qu'on change le monde, que l'écologie prenne plus de place dans le monde et tout ça. Et en fait, mon quotidien, c'était travailler 70 heures par semaine, prendre l'avion de quand même beaucoup trop. Enfin, voilà, tout ça était vraiment hors sens, quoi. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à l'écologie de manière un peu plus radicale. J'avais toujours eu des moments d'activisme assez forts, mais je suis retournée à ce chemin-là. Et en fait, j'ai rencontré Adrien au camp Action Climat. Donc, c'était il y a 10 ans maintenant. Le camp Action Climat, c'est un peu, je ne sais pas, c'est aujourd'hui, ce serait Extinction Rébellion, voilà. Et en fait lui était sur un mode d'engagement beaucoup plus radical que moi et en même temps on était dans des actions où en tant que militant on avait un impact qui était très faible, quoi. Et on s'est dit ok, c'est l'heure, on va y aller, on va faire le truc pour de vrai et puis après on verra comment est-ce que la lutte peut se faire, mais en tout cas pour nos vies à nous on va se mettre en cohérence. Et c'est vraiment ça qui a été le levier, à la fois le trop de non-sens de ma vie d'avant et la rencontre avec Adrien et l'envie de changer les choses ensemble.
Donc là, tu parles de ton changement de vie et du fait que le fait de militer, ça a toujours fait partie de ta vie. Mais aujourd'hui, on a l'impression que tu défends une cause encore plus précise que l'écologie au global. Est-ce que tu peux la définir, cette cause ?
Ce que je défends, c'est un rééquilibrage de la relation au territoire. Mais ça, c'est l'enjeu, enfin, je veux dire, c'est l'enjeu de l'exode urbain pour moi. C'est-à-dire... À un moment, il faut qu'il y ait un nombre massif de gens qui quittent la ville, qui refusent le système consumériste qui est attaché au mode de vie urbain et qui retournent à la campagne pour construire une vie autonome, solidaire et qui permettent d'être suffisamment nombreux dans les zones rurales pour pouvoir s'organiser en communauté et vivre de cette manière simple, autonome et solidaire. Et pour moi, cette alternative-là, elle s'inscrit dans un combat qui est bien plus global. C'est-à-dire que moi, le fondement de mon engagement, c'est l'écologie politique. Donc, c'est un espace qui est plus vaste que ça. Et en fait, ce que je porte aujourd'hui, pour moi, c'est un moyen d'accéder. Comment est-ce que je peux définir ça ? En tout cas, le processus entre les idées, le large champ de l'écologie politique et comment l'exode urbain se cale là-dedans. Moi, j'ai construit mon socle idéologique autour de l'écologie politique. C'est un corpus de valeurs qui est large, hein. qui tient compte de la finitude du monde, de l'impossibilité d'accéder au bonheur par la possession matérielle, et ça c'est pour moi quelque chose qui est vraiment essentiel, c'est le refus du consumérisme, et la recherche d'un équilibre ailleurs, ailleurs que dans la possession. En fait, c'est le débat entre l'être et l'avoir. Ce que ça signifie, c'est qu'on va essayer de faire primer le long terme sur les arbitrages de court et de moyen terme, qu'on va faire primer la collaboration sur la concurrence, l'autonomie sur la consommation, et qu'en fait, ça va intégrer tous les pans de la vie. C'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose de très intime et de collectif à l'échelle d'un pays, mais bien au-delà, en fait, à l'échelle de l'humanité. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dissociation entre le parcours intime, philosophique qu'on va mener pour s'engager et la capacité à changer le monde dans l'action militante. Souvent, les gens disent « Oui, mais bon, la politique, ça ne me correspond pas. Moi, je préfère faire les trucs dans ma vie, etc. » Pour moi, ce n'est pas une question. Tu ne peux pas choisir. C'est un processus. Et pour moi, l'exode urbain, il s'inscrit exactement là-dedans. De la même manière que l'exode rural en son temps, c'est-à-dire que quand on a vidé les campagnes pour créer la société de consommation qui existe aujourd'hui, on a promis aux gens l'accession à une position sociale, on leur a promis la réussite, on leur a promis l'épanouissement individuel, on leur a promis le mariage en dehors des cadres de la société traditionnelle qui était la leur. Donc en fait, on leur a promis une émancipation intime et personnelle. Mais l'objet de ça, c'était la construction d'un système qui repose sur le fait de donner son travail contre de l'argent, de la nécessité de payer un loyer parce qu'on n'est pas autonome, parce qu'on n'est pas propriétaire de ses terres alors qu'avant elles étaient cédées dans la famille, et du coup d'être dans un schéma de dépendance en tant que consommateur et de dépendance en tant qu'outil de la chaîne de travail. Et bien de la même manière, l'exode urbain, c'est la volonté, parce qu'on a envie de construire quelque chose pour soi, pour sa vie, pour son intimité, pour sa famille, de trouver un équilibre, d'arrêter de courir, d'arrêter de se rendre malade pour son travail. Voilà, qu'on a en besoin de sens, qu'on a besoin de quelque chose qui nous anime. Donc c'est quelque chose de très intime, mais en même temps, si c'est fait de manière massive, s'il y a plein de gens qui acceptent de faire ce choix et de prendre ce chemin, ça change la société. Est-ce que c'est clair ?
C'est extrêmement clair, mais ça appelle tellement de questions. C'est-à-dire, déjà, la première qui me vient, c'est l'œuf ou la poule. C'est-à-dire, est-ce que c'est le fait d'être déjà impliqué, d'avoir réfléchi à l'écologie politique, à tout ce que tu viens d'exposer, qui a provoqué le fait de mettre ta vie en accord avec tes valeurs ? Ou est-ce que c'est le fait que ta vie ne te convenait plus qui t'a amené, ou ta vie provoquait quelque part une dissonance avec tes émotions, une partie intime de toi, qui t'a poussé à creuser la dimension politique engagée de toute cette réflexion? Et je te pose la question parce que je pense que je t'écoute et je pense qu'il manque un maillon pour les gens qui nous écoutent, de savoir par où ils commencent, tu vois. Moi, je fais quoi là maintenant? C'est-à-dire que je commence par prendre ma carte chez les Verts et je commence à aller à des conférences sur l'écologie et sur la ruralité, ou est-ce que je commence à regarder les annonces immobilières dans les petits villages de 800 habitants? Tu vois ce que je veux dire?
Alors moi, je prône pas seulement l'exode urbain comme un accomplissement militant. C'est-à-dire que je considère pas que tout le monde a à faire mon parcours. Les gens disent oui, dans les commentaires que j'ai eu sur les réseaux sociaux, il y a oui, mais bon, tout le monde n'est pas comme vous. Tout le monde n'est pas comme moi, en fait. Et je pense que ce qui fait la force de ce mouvement, c'est justement ça. Déjà, on pense que quand on prône l'exode urbain, eh ben, on prône le retour à la terre, les projets alternatifs, les ZAD et tout le bordel. En fait, non. Il se trouve que peu importe ce qui vous amènera à la campagne. Est-ce que c'est parce que vous avez envie que vos enfants courent dans la nature? Est-ce que c'est parce que vous avez envie d'avoir un bureau parce que vous êtes indépendant et que vous ne pouvez pas avoir ça en ville et que vous avez besoin d'avoir un espace de travail digne? Est-ce que c'est parce que vous avez envie de manger convenablement et d'avoir du temps pour faire des choses? Et voilà. Est-ce que c'est parce que vous êtes artiste que vous avez besoin d'avoir un espace pour créer? En fait, j'ai envie de dire, peu importe ce qui amène à la campagne. Moi, je ne dis pas que tout le monde doit devenir paysan bio. Vraiment pas. Je ne dis pas ça. On a besoin de paysans. Mais je ne dis pas que tout le monde doit venir à la campagne pour devenir paysan bio. Je dis qu'en fait, il faut écouter son chemin à soi. Mon chemin à moi, c'était la rencontre entre, effectivement, un besoin de cette vie rurale parce que c'est un truc qui m'appartient, parce que voilà, c'est quelque chose que je ressentais, et la façon de le faire, c'est-à-dire celui de s'installer en agricole, de créer un projet agriculturel, d'être en propriété collective sur la ferme, etc. Toute cette manière dont nous, on a fait les choses, ça appartenait à notre parcours militant. Mais en aucun cas, je pense que c'est possible de transposer. Et je ne vais pas donner la méthode magique pour faire installez-vous comme paysan. Voilà, c'est un peu les reproches que je fais au mouvement de la permaculture ou des trucs comme ça aujourd'hui, avec des gens qui veulent donner des clés en main pour changer le monde, parce que plus il y aura de gens qui feront l'alternative, plus... Voilà. Moi, je crois intimement que chacun fait son chemin. Je ne pense pas qu'on puisse asséner à quelqu'un de faire les trucs d'une manière ou d'une autre. Ce que je dis, c'est qu'à la campagne, il y a un espace d'innovation qui permet à plein de gens de vivre la ruralité à leur manière intime, à celle qui leur ressemble. Et qu'en fait, tout est à construire, et que le plus important, justement, c'est que ça leur ressemble. C'est de ne pas chercher à coller à un modèle. Mais la réalité, c'est qu'en étant à la campagne, on est moins sollicité par les messages publicitaires, on n'a pas d'injonction à consommer pratique, parce qu'en fait, quand on travaille en dehors de chez soi, etc., enfin, tous les trucs des modes de vie urbains qui imposent la consommation. Par exemple, le fait qu'on vive dans un tout petit appartement et qu'on n'ait pas tellement la possibilité d'y recevoir des gens, ça nécessite de passer par un espace marchand pour avoir des relations sociales. Ça, c'est pas du tout le cas à la campagne. Donc, en fait, toutes ces petites choses qui font la qualité de vie rurale et qui font en même temps, de manière très soft, la déconsommation. Parce qu'à partir du moment où tu te vois dans un cadre personnel, on s'invite, on fait des trucs ensemble, on fait des chantiers, on bricole, on mange, etc., mais on n'est pas dans un espace marchand, et bien en fait on a du plaisir et du lien social sans avoir recours à la consommation. Et ça, on se le dit pas, c'est pas un truc de révolution active, c'est un truc d'état de fait. Et du coup, c'est un court-circuitage du système sans même avoir besoin d'avoir l'impression de faire la révolution au quotidien, quoi. Et sans porter le fardeau de ce truc-là.
Ok, je vois mieux la dimension, le parcours individuel, on va dire. Maintenant, pour la dimension collective de ce que tu décris, tu parles d'exode urbain. On a, je pense, tous et toutes en ce moment, les images des Parisiens qui vont passer le confinement à la campagne. Mais pour moi, ce n'est pas un exode urbain, ça s'appelle un mois d'août. C'est à chaque fois, c'est des migrations saisonnières des gens qui ont des résidences secondaires, qui en profitent. Qu'est-ce que toi t'entends par exode urbain ? J'ai l'impression que l'image collective qu'on en a actuellement, c'est pas la même que celle que tu décris.
Oui, c'est vraiment ce que je dis, c'était le propos de la tribune. C'est-à-dire que je voyais traiter l'exode urbain dans les médias là, pendant le confinement comme la fuite des classes supérieures pour l'accès à un temps de confort dans des espaces de résidence secondaire. Pour moi, c'est tout sauf ça. C'est-à-dire l'exode urbain, pour moi, c'est le choix de vie de la ruralité. Donc, partir en long week-end parce que la ville est inconfortable en situation de crise dans un espace parce qu'on en a les moyens, et il fallait en avoir les moyens, il fallait avoir la possibilité de télétravailler ou de ne pas travailler, avoir une résidence secondaire ou un moyen de payer un espace intermédiaire ou de la famille qui a la ressource pour vous accueillir, donc l'espace. Donc nécessairement, les gens qui ont fait ce chemin étaient des gens qui étaient plutôt des gens très favorisés. Et en plus, en aucun cas, c'était un choix de vie. C'était un choix de confort temporaire. Donc pour moi, l'exode urbain, c'est très clair, ça n'est pas ça. L'exode urbain, c'est le fait de choisir de vivre à la campagne et d'adopter le mode de vie qui va avec.
Alors justement, cette dimension du choix, pour moi, elle ouvre une multitude de questions, dont la première peut-être pourrait être, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui considèrent que faire ce choix-là, c'est faire le choix de renoncer et de revenir en arrière par rapport, par exemple, à l'exode rural de l'après-guerre?
Alors, en fait, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est-à-dire, les gens qui pensent que la campagne d'aujourd'hui, c'est celle de leurs grands-parents quand ils sont arrivés en sabots à la gare Montparnasse dans les années 50, c'est pas vrai, en fait. Donc, aujourd'hui, les zones rurales, elles ont énormément bougé, pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est devenu des outils de production de l'agriculture industrielle. Et donc, elles ont perdu une partie de leur âme, de leur bocage, de leur paysage, etc. Mais aussi, c'est des espaces qui bougent parce que les gens bougent, en fait. Donc, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est pas vrai. On peut pas... l'iconographie un peu Amish, on rentre à la campagne et ça, pour moi, ça n'existe pas. Hein, et en France, surtout, quoi. Donc, parce qu'ici, il n'y a pas de zone naturelle. Il n'y a pas d'espace sauvage, réellement. Donc la réalité, c'est que quand on rentre à la campagne, peut-être qu'on a le sentiment de rentrer si on a une attache familiale, parce qu'il y a des gens qui choisiront leur zone d'exode urbain parce qu'ils y ont des racines, et tant mieux en fait. Il faut quand même qu'on se dise que par exemple dans la Creuse, il y a, en 100 ans, le département a perdu 80% de ses habitants. C'est énorme, c'est énorme. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui sont en ville aujourd'hui et qui ont des racines dans ces départements. Donc peut-être qu'ils auront envie de retrouver un lien à cette histoire familiale, et tant mieux pour eux, et peut-être pas. Moi, je ne me suis pas installée à l'endroit où j'ai grandi. Et en fait, il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Chacun fait le chemin, le paysage qui lui convient, l'espace qui lui convient, l'état d'esprit qui lui convient, la culture qui lui convient. Et en fait, tant mieux, parce que comme on a la chance de choisir, choisissons.
Deuxième perspective sur le choix, est-ce que c'est vraiment un choix ? Si ça devient une nécessité par besoin de survivre, en fait, parce que tu as parlé des crises qui conduisent un nombre conséquent de personnes à quitter périodiquement la ville.
Alors, j'écris un livre actuellement sur l'exode urbain. C'est ce travail qui a préparé la tribune. Ce livre, ça fait 2 ans que je travaille dessus. Donc, quand j'ai commencé à aborder ce sujet, clairement, la notion d'effondrement n'avait pas la place qu'elle a aujourd'hui. Et le choix qui avait été fait avec l'éditrice, ce choix aussi de parler de ruralité positive, c'était de l'idée d'aller vers la ruralité et vers la campagne et vers la non-consommation pour construire quelque chose de mieux d'un point de vue positif. Je ne peux pas nier, et d'ailleurs j'ai dû réécrire une partie de l'ouvrage qui sera publié cet été dans ce cadre-là, que la réalité de ce que vivent les urbains aujourd'hui, c'est un sentiment de peur et de vulnérabilité, et qu'il est légitime. Il n'y a pas une seule projection de tous les scénarios liés au changement climatique qui donne des étés où on peut vivre confortablement en ville. On est sur des scénarios avec des pics de température supérieurs à 40 degrés la nuit, plusieurs fois par an, dans les 10 prochaines années. Donc ça veut dire qu'en fait, on ne pourra pas respirer, on ne pourra pas être une personne âgée, on ne pourra pas être une personne malade et supporter ces conditions-là. Ça veut dire que oui, quelque part, il faut se préparer à l'idée que vivre en ville tout le temps, ce sera peut-être plus possible. Mais par contre, je tiens pas forcément à mettre ça en avant comme dans mon argumentaire, parce que non, la campagne, c'est pas qu'un choix. Une fois encore, ce serait un non-choix. Ça veut dire on irait à la campagne parce que la ville, c'est pas possible d'y vivre. Non, en fait, il faut qu'on choisisse le chemin de la campagne parce que c'est ici qu'il y a des choses à construire et pas seulement parce qu'on a peur d'être en ville. Mais évidemment, ce sera une question qu'il va falloir se poser dans les années qui viennent.
Et j'ai une dernière perspective sur le choix que j'aimerais aborder, parce que là, ça semble presque simple et évident de faire cette démarche. Il y a plein de gens pour qui je pense que même s'ils veulent aller à la campagne, je ne suis pas sûre qu'ils en aient forcément les ressources. Est-ce que c'est un choix qui est véritablement accessible à tout le monde pour toi ?
Alors, il y a plusieurs enjeux. Ce qui est sûr, c'est que les néo-ruraux d'aujourd'hui sont des gens qui ont eu le temps de réfléchir aux choses, de faire des choix de vie, et que quand tu es dans la course au quotidien, que tu n'as pas un rond, que tu habites en banlieue, et que tu as des enfants à charge, et que tu n'as pas le temps de réfléchir, tu n'as pas le temps de choisir ta vie, en fait. Tu l'as subi en grande partie. La réalité, c'est que la crise qu'on va rencontrer, elle va amener beaucoup de précaires dans des situations invivables. Et que je suis très bien placée pour témoigner. Être pauvre à la campagne, ça n'empêche pas d'avoir une qualité de vie. Alors après, bien sûr qu'il y a une part dans le mode de vie que j'ai, qui est choisi et qui me permet de vivre les choses d'une manière beaucoup plus sereine que quelqu'un qui aspire à la consommation, qui aspire à avoir une grosse voiture, à avoir une grande télé, du coup qui fait des prêts à la consommation, etc., qui aspire à être bien équipé, à manger beaucoup de viande, etc., peut se sentir frustré malgré tout. Mais la réalité, c'est qu'il est beaucoup plus difficile d'être précaire et d'être pauvre en ville sans aucun moyen d'avoir une quelconque autonomie, notamment une autonomie alimentaire, que d'être pauvre à la campagne. Et ça, c'est évident, entre le prix du foncier, je veux dire, être pauvre dans une grande ville française, rien que la valeur du loyer, même dans le parc du logement social, c'est énorme comparé à un loyer dans le parc locatif en zone rurale. Donc en fait, il y a plein de facteurs comme ça qui font que, pour moi, la barrière sociale sur l'exode urbain, c'est plus une barrière mentale, enfin une barrière de projection de soi, qu'une barrière économique. Et ça fait partie du travail qu'on a à faire sur la néo-ruralité. Et de dire qu'en fait, il y a une place pour tous à la campagne, que chacun peut s'y projeter, d'où qu'ils viennent, quels que soient ses moyens.
Je vais revenir à ta lettre ouverte, je vais citer un autre extrait. Une page nouvelle peut s'écrire, celle d'une échelle des valeurs renversées où l'utilité sociale prime sur le pouvoir supposé. Tu peux commenter ce passage ? De quoi tu parles concrètement à travers les termes de utilité sociale et de pouvoir supposé ?
Ben, c'est la même chose que ce qu'on a à vivre, ce que j'explique dans la lettre. Hein. C'est-à-dire qu'après le Covid, on nous dit, ben voilà, on se rend compte qu'en fait, les traders, ça sert à rien et que les infirmières, c'est super utile et que c'est pas bien payé. Ok, énorme scoop, les amis. On est vraiment sur du gros, gros scoop. Ma position, c'est la même sur la relation au territoire. C'est-à-dire, en fait, oui, la ville, c'est pas l'alpha et l'oméga de tout. Et en fait, il y a des choses à construire à la campagne. Il y a un espace d'opportunité, il y a plein de choses. Il y a un espace de ressources. Ce changement de regard, pour moi, ce renversement d'échelle de valeur, il doit se passer de la même manière pour les métiers que pour les territoires. Et donc, ça doit reposer sur l'utilité sociale, c'est-à-dire sur où est l'espace qui nous permettra de construire réellement un projet durable pour demain. Ma réponse, c'est pas la ville.
Et comment est-ce qu'on peut arriver à ce renversement des valeurs ? C'est quoi nos leviers d'action, nous, individus ?
Ben, en fait, il y a deux chemins. Et ça, c'est une question de choix, et puis c'est une question de colère aussi, j'ai envie de dire. Quand on a envie de renverser un système, on a plusieurs options. On a celui de la révolution, mais il est dangereux, parce que révolution, ça veut quand même dire faire un petit tour sur soi-même. On a celui du rapport de force, c'est le choix des gilets jaunes, hein. c'est celui d'aller faire peur, d'aller manifester dans les quartiers riches pour dire on a le droit d'être justement considéré, on a le droit d'être écouté, on est légitime, écoutez-nous, entendez-nous, donnez-nous la juste place qu'on mérite. Ça, c'est celui du rapport de force. Et on voit quelle a été la réaction des personnes de pouvoir face à cette demande-là, et que c'était vraiment clairement une fin de non-recevoir. Et après, le chemin que moi j'ai choisi, mais qui est celui qui me correspond, c'est celui de donner envie. C'est celui du mimétisme positif. C'est celui de dire, en fait, ce récit-là, ce modèle-là, ce chemin-là, il me parle, il me donne envie, il parle à mes émotions. Et il génère en moi l'envie de prendre une décision. Et voilà, alors évidemment qu'on est dans un chemin différent. Après, je pense que c'est complémentaire en réalité tout ça. C'est une question de rapport aux politiques. Mais en tout cas, c'est le chemin que j'ai choisi aujourd'hui.
Quand on parle d'aller vivre à la campagne, comme tu en as fait le choix par exemple, on entend aussi souvent beaucoup d'histoires de friction que ça peut provoquer entre les néo-ruraux dont tu as déjà donné la définition et ceux qui sont ruraux mais sans être néo-ruraux, c'est-à-dire qui ont grandi là, qui sont là de longue date. Et il y a cette idée que l'arrivée massive de citadins à la campagne n'est pas forcément vue d'un bon œil par tout le monde. Ça pose la question de la place, ça pose la question aussi peut-être de la légitimité. Qu'est-ce que tu portes comme regard sur ce sujet-là ?
Moi, je pense qu'il n'y a pas un maire de commune rurale à qui vous dites « il y a des nouveaux habitants qui ont envie de s'installer sur votre commune » et qui répondraient « oh non, je préférais qu'ils aillent ailleurs ». Ça n'existe pas. Je pense qu'en fait, là-dessus, il y a beaucoup d'idées supposées, il y a beaucoup de jugements projetés et de clichés projetés sur les ruraux qui seraient des gens conservateurs, qui seraient des gens étroits d'esprit, qui seraient des gens... Vous savez, c'est une iconographie et un univers de projection de la ruralité qui est très ancré. C'est, on dirait que ça gêne de marcher dans la boue. Toutes les chansons des années 70 qui critiquaient la ruralité, le cousin qui revient de la ville et qui se fait humilier et tout ça. Ça, c'est vraiment... c'est un truc qui est hérité de la réaction à l'exode rural. Évidemment que quand je dis que la Creuse a perdu 80% de ses habitants, les gens qui ont vu les gens partir avaient peur, étaient en colère, étaient un peu désespérés, comprenaient pas ce qui se passait sur leur territoire. Et qu'il y a eu des incompréhensions dans les deux sens. Aujourd'hui, franchement, je veux bien croire qu'il y a des problèmes de voisinage, mais une fois encore, c'est comme l'histoire du coq, du procès pour le coq ou pour les cloches, etc. André Thor explique très bien que tout ce qu'il y a eu sur l'histoire des procès, de la judiciarisation des relations de voisinage à la campagne, entre les coqs qui chantent trop fort, les cloches qui sonnent, les vaches qui font meuh, les odeurs de fumier et tout ça. En fait, c'est très anecdotique, c'est-à-dire ça relève vraiment du fait divers et c'est monté en épingle. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup moins de conflits en zone rurale qu'il y en a en zone urbaine, parce que la concentration de population est moindre, qu'en fait, vous avez tous connu un voisin qui râle quand vous marchez trop, quand vous mettez la musique, etc. Qu'en fait, les conflits de voisinage ne sont pas entre les urbains et les ruraux, ils sont entre les voisins tout court. Et surtout, il explique que lui, il a étudié les conflits statistiquement, etc. Et il explique qu'en fait, les conflits en zone rurale sont plutôt des conflits qui mettent en collectif les habitants contre un tiers. Par exemple, des infrastructures de transport, des entreprises, des risques de pollution, etc. Que des conflits qui opposent des personnes individuelles entre elles. Donc en fait, ce schéma-là, c'est vraiment un schéma de projection. Un des autres arguments qui est avancé, c'est le risque de la gentrification, qui est une peur très urbaine en fait. Puisque la gentrification, c'est la concurrence d'accès au foncier. En l'occurrence, on est sur des zones rurales où on a énormément de foncier disponible. Alors après, la question, c'est où ? Évidemment, si vous voulez aller vous installer en zone littorale, en zone touristique, dans des espaces qui ont déjà de la concurrence foncière, vous serez confronté à cette question-là. Mais ce n'est pas lié à l'exode urbain, c'est lié à l'aménagement du territoire aujourd'hui en France. Mais il y a plein d'espaces où il y a du foncier disponible, où le fait que vous achetiez une maison ne va pas faire monter les prix démesurément. Et d'ailleurs, je refuse que systématiquement, quand on parle d'exode urbain, on invite comme experts des agents immobiliers, quoi. À un moment, ce n'est pas un sujet immobilier, c'est un sujet de société.
Et quel message tu ferais passer alors à celles et ceux qui seraient tentés par l'exode urbain ?
Allez-y, venez, on vous attend, faites vite, faites votre choix, arrêtez d'avoir peur, parce que la peur, c'est pas un moteur. Et en aucun cas, il y aura une solution qui va tomber du ciel. En aucun cas, une appli va exister pour vous rendre heureux et vous permettre de subir ce que vous subissez aujourd'hui en contrainte de vie quotidienne, en contrainte de pression au travail, et que la concurrence qui va naître après la crise économique qu'on va connaître dans les années qui viennent, parce qu'en fait on ne se remettra pas du jour au lendemain de cette situation, va accentuer encore cette relation douloureuse au travail, va accentuer cette concurrence. Et en fait, à un moment, il faut être capable de lâcher et de prendre un chemin différent et de le prendre vraiment. Et c'est difficile de renoncer, mais une fois qu'on a accédé à ça, c'est vraiment plus un sujet.
Claire, ce podcast présente des nouvelles approches de l'action politique, donc je voudrais qu'on parle maintenant plus précisément du sujet politique. J'en profite pour glisser qu'on se connaît, car j'aime bien dévoiler quand même le fait que quand je connais les invités, je précise d'où on se connaît. On se connaît de Sciences Po Lille.
Exactement, on se connaît d'il y a très 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 longtemps. Enfin, on n'est quand même pas des ancêtres, mais moi j'ai été diplômée en 2008, donc ça fait quand même un bail, ouais.
Moi, j'étais diplômée en 2010, donc on avait effectivement deux promos d'écart. Donc, moi, ce qui m'intéresse aussi dans ton parcours, c'est que je t'ai connue sur les bancs de cette école qui forme les hauts fonctionnaires, qui a vu sortir, je pense, dans la même promo que toi, Gérald Darmanin, ou un an avant, je ne sais plus, voilà. Donc, on vient, toi et moi, de cette écurie politique, et on est aujourd'hui, moi, dans ma chambre d'ado à la campagne à faire les podcasts pour conquérir le monde, et toi à la campagne à faire pousser des plantes médicinales et des tisanes, donc, et des plantes aromatiques. Donc j'aimerais qu'on fasse quand même un peu le lien pour les gens qui écoutent. Pour commencer par toi, c'est quoi ton rapport à la politique ? C'est quoi ta définition du politique ?
Pour moi, la politique, c'est un peu ce qu'on nous a enseigné à Sciences Po. Hein. En gros, pour agir sur la façon dont vivre en société, on a trois chemins. Alors évidemment, on a l'action individuelle, donc ça c'est les petits pas, c'est le colibri, c'est être zéro waste, essayer de faire son chemin pour être plus responsable, etc. Ensuite, on a l'action collective, donc là c'est intégrer des assos, des collectifs, des syndicats, pour essayer de se faire entendre et de faire avancer collectivement la société, que ce soit d'un point de vue moral ou d'un point de vue technique, pratique, etc. Et puis après, évidemment, on a l'action institutionnelle, l'action politique institutionnelle. Évidemment, en sortant de Sciences Po, le chemin qui était plutôt tracé pour moi, c'était celui de l'action institutionnelle. Et c'est d'ailleurs mes premières expériences professionnelles, elles étaient à cheval entre l'action collective et l'action institutionnelle. À la sortie de Sciences Po, j'ai passé un an dans la jungle à Calais. J'ai dirigé un centre d'hébergement d'urgence pour Emmaüs. Et puis, je me suis dit, il faut quand même imaginer qu'à l'époque, l'action institutionnelle qui était en face de moi quand j'étais militante associative, c'était Hortefeux, ministre de l'Intérieur, Éric Besson, ministre de l'Identité nationale. Donc, et je militais dans une association qui défendait les droits des sans-papiers. Donc, on était quand même dans un rapport à l'action institutionnelle qui était quand même assez conflictuel. Finalement, évidemment, il y avait la perspective d'une alternance. 2010, c'est aussi les bons scores de l'écologie, etc. Donc moi, je suis revenue dans le chemin institutionnel. Et pendant plusieurs années, j'ai fait ce que je savais faire et ce qu'on m'avait enseigné à Sciences Po, c'est-à-dire que je faisais de la communication politique et j'étais dans ce schéma-là qui était vraiment celui de collaborateur d'élu, vraiment dans l'institution. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait le choix parce que j'étais frustrée de voir que finalement les tâches que je menais et l'engagement que je menais dans la partie institutionnelle étaient totalement vains par rapport au chantier qui nous attendait, de faire à la fois un retour vers l'action collective avec le militantisme de la désobéissance civile, en fait, et le choix de l'action individuelle. Ce qui est sûr, et en tout cas mon intime conviction aujourd'hui, c'est que il n'y a pas de cloisonnement. C'est-à-dire le fait qu'on vous dise « faut choisir ». Vous faites de la politique, vous ne pouvez pas être dans une asso. Vous êtes dans une asso, vous ne pouvez pas être dans un parti. Ce n'est pas bien, parce que sinon, c'est de la récupération. Non, la politique, ça ne sert à rien. L'important, c'est de changer soi, c'est de faire sa part, etc. Pour moi, tout ça, c'est faux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre chemin que d'embrasser ces trois piliers. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut être capable d'être en cohérence et de faire des choix dans son intimité qui permettent de faire avancer un peu le schmilblick. Il faut être capable, quand il y a une lutte à mener, d'avoir recours à de l'organisation et d'avoir recours à des collectifs pour être plus forts ensemble. Et il ne faut pas avoir peur d'aller dans les institutions pour changer les choses. Et ça ne peut pas se faire en même temps. C'est des chemins de vie. Et tant mieux, parce qu'en fait, on ne peut pas être partout et on ne peut pas porter ce fardeau-là de se dire... il faut que je change le monde, j'ai la responsabilité qui pèse sur mes épaules, je dois être dans un collectif, dans une asso, etc. Non, en fait, c'est un moment de vie, il y a un combat qui nous semble juste et on choisit les moyens qui sont à notre disposition et qui sont les plus à même de porter cette parole. Et l'important, c'est de pouvoir bouger, de se sentir légitime à occuper ces différents espaces. Et en fait, c'est un enjeu de légitimation croisée. Ce que ça signifie, c'est que plus on est cohérent, plus on est légitime quand on s'exprime dans l'institution. Plus on est organisé, plus on est fort. Et en fait, tout ça, ça marche ensemble. Évidemment que si dans votre vie, vous faites rien qui correspond à vos valeurs et qu'après vous allez dans les institutions en disant genre « oui, moi je défends cette cause-là », etc., vous n'aurez aucune crédibilité. Si vous êtes tout seul, vous n'avancerez pas. Et en fait, c'est pour ça, pour moi, que ça repose vraiment sur ces trois piliers et que le fait qu'on nous ait laissé penser qu'il fallait choisir, ben c'est sûr, c'est génial. Comme ça, c'est divisé pour mieux régner. Chacun fait son truc de son côté et puis on est sûr que ça ne marchera jamais. Plus que l'union des gauches ou je ne sais quoi, moi je crois vraiment à l'union de la méthode, à rassembler la méthode et à être capable d'utiliser ces trois piliers pour avancer. Parce que la politique, c'est la vie entière en fait.
Merci tellement pour tout ce que tu viens de dire. Je suis tellement ravie qu'on ait cette discussion. Je partage entièrement ton analyse sur il faut conjuguer tous ces modes d'action pour aller à l'efficace. D'ailleurs, la naissance de ce podcast Activiste avec Esther partait notamment d'un constat qui est le désamour, la désaffection des Français et des Françaises pour la politique et le rejet presque viscéral, épidermique de ce mode d'action au motif qu'il y a quelques hommes et femmes politiques qui ont des par leur comportement, par leur manque d'implication et d'action, etc. Et que pour quelques brebis galeuses, finalement, on délégitime tout un mode d'action qui pourtant est précieux, notamment à l'échelon local. On en parlera, j'imagine, à une autre occasion, j'espère, avec d'autres invités, mais ce qui s'est passé pour la campagne des municipales et ce premier tour qui amène aujourd'hui plein de municipalités à être gérées par des élus qui vont vraisemblablement ne pas être élus au deuxième tour et pourtant prennent en ce moment des décisions qui engagent pour longtemps leur collectivité au sein de cette crise. Tout ça, c'est un énorme problème démocratique. Donc merci beaucoup d'avoir partagé ça. Je veux qu'on continue à parler de politique sur précisément la question de l'exode urbain et de la ruralité. En quoi cette question est politique ?
Alors juste ce que je voulais ajouter par rapport au truc politique, c'est que je pense qu'il y a une confusion entre le rapport au politique et le rapport au pouvoir. Et qu'en fait, ce que les gens n'aiment pas, c'est le mauvais rapport au pouvoir. C'est pas le mauvais rapport au politique. Et qu'on a confondu la politique institutionnelle avec le rapport au pouvoir. Et grand bien m'a fait de fréquenter beaucoup d'anarchistes qui savent comme le pouvoir est maudit, ce que disait Louise Michel, et qu'il y a un enjeu énorme aujourd'hui de trouver... Enfin, de trouver... de révéler, en fait, parce qu'il y a plein de gens qui ont ça en eux, mais il se trouve qu'il faut qu'ils l'assument. des gens qui ont la capacité de faire usage du pouvoir d'eux et pas du pouvoir sur. Et que Sciences Po nous forme au pouvoir sur. Et que faire ce chemin-là, faire son chemin d'accéder à des responsabilités en s'interrogeant sur ce qu'on va réellement en faire, sur notre capacité à impulser le changement dans l'institution, à se servir de cet espace pour être des acteurs du changement et pour donner aux autres la parole, la légitimité, le pouvoir, pas pour se l'approprier, ça c'est un enjeu essentiel. Et pour moi, ça c'est pas un enjeu qu'on trouve sur les bancs de l'école. Et j'aimerais vraiment qu'il y ait plein de gens qui se sentent aujourd'hui légitimes, parce qu'en fait, en aucun cas, faire une école de sciences politiques ne donne ce savoir-là, et au contraire, l'organisation collective, le travail de terrain, etc., donne ce sentiment d'être capable de, si on me donnait les moyens, je ferais ça, et je le ferais pour les autres, en fait. Et ça, j'aimerais qu'il y ait de plus en plus de gens qui se disent « Ok, en fait, je suis cette personne ». J'aurai, si c'est nécessaire, des gens pour me conseiller sur les questions juridiques, sur les questions institutionnelles, etc. Mais en tout cas, je sais où j'ai envie d'amener la barque. Et je pense qu'on a besoin de révéler ces personnes et de leur dire « On est avec vous, on vous fait confiance, on a besoin de vous, engagez-vous, et puis présentez-vous aux élections. »
Merci beaucoup, Claire. Du coup, je te relance quand même sur ma question à propos de l'exode urbain et de la ruralité. En quoi cette question est politique ?
En fait, la question dont on vit le territoire, c'est politique. C'est même essentiel. Et puis, la question dont on vit aussi le rapport à la consommation, parce que pour moi, c'est ça le vrai problème. Hein. La ville a été construite pour la consommation. La ville est dans ses murs, dans son architecture, et c'est des choses qu'on ne peut pas bouger. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de réactions un peu difficiles, hein, je dois dire, de gens qui disaient « Oui, mais c'est pas vrai, on peut changer plein de choses en ville, on peut faire la révolution en ville, on va faire des jardins partagés, on va faire etc. » Ouais, mais pour moi, toute chose qui rendra la vie urbaine plus confortable et plus acceptable et plus écologique et moins consumériste est louable, mais on poussera pas les murs. Il est impossible dans une grande agglomération, même pas Paris, mais je parle d'une grande ville comme Toulouse, comme Lyon, comme Bordeaux, etc., de pousser les murs. Avec ce niveau de concentration de population, la question de l'autonomie alimentaire, la question de l'accès de chacun à une juste activité au-delà d'un emploi, de la sécurité, de l'accès à la culture, n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Donc en fait, on a des hommes et des femmes politiques qui défendent à chaque campagne, on va faire ça pour tous, etc. Et ça fait 30 ans qu'on a des gens dans des banlieues qui sont des citoyens de seconde zone, qu'on a de la gentrification qui vire des populations qui habitaient depuis super longtemps dans des quartiers populaires pour y mettre des créas et des gens qui ont du pognon et qui vont changer ce quartier, qui vont le rendre vivant et chouette, mais qui vont exclure. Et qu'en fait, ces schémas, on n'arrive pas à les combattre. Parce que tant qu'on est sur une notion de concurrence dans l'accès au territoire, on ne peut pas dépasser cette question-là. Donc, pour moi, la question du rapport au territoire, elle est extrêmement politique. Elle est extrêmement politique. Et c'est pour ça que c'est important de s'en saisir de manière intime et citoyenne. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on peut agir en tant que citoyen aujourd'hui dans la structuration des politiques publiques, etc. Je sais qu'il y a des gens qui y travaillent et grand bien nous fasse qu'il y ait des gens qui se posent cette question, mais l'urbanisme n'est pas une question citoyenne. Les maires bâtisseurs et tous ces trucs-là, c'est des gens qui ont des visions et qui vont te faire la ville, etc. Mais à quel moment il y a une place pour que les gens qui vivent ces espaces y participent ? Ce que je vois, c'est qu'à la campagne, on a la capacité de faire ça et que c'est une différence fondamentale.
Justement, qui sont aujourd'hui les voix, les acteurs et les actrices de cette question de société ? Parce que toi, donc, tu en fais partie, c'est pour ça qu'on te tend le micro aujourd'hui, mais pour toutes celles et ceux qui écoutent cet entretien et qui aimeraient en avoir plus, des idées, des pistes de réflexion, des voix, vers qui on peut les renvoyer ?
Donc aujourd'hui, dans l'espace de cette question sur l'exode urbain, on a les collapsologues. Donc la suite du monde, c'est une initiative de Pablo Servigne qui vise à créer des communes imaginaires, en fait des regroupements de populations qui sont prêts à essayer de s'organiser pour créer de l'autonomie collective et de l'organisation coopérative sur des territoires. Après, on a aussi, on va dire, un peu les héritiers des néo-ruraux des années 70, qui sont les revues Village, le Carnet de campagne, par exemple, sur France Inter, donc, qui sont un petit peu tous les réseaux de l'ESS et de l'alternative dans les territoires, de comment est-ce que dans les campagnes, on fait bouger les choses par l'innovation sociale, parce qu'en fait, clairement, on est dépourvu de services, mais on n'est pas dépourvu de bonnes intentions et d'imagination. Donc voilà, on a ces espaces-là qui permettent d'avoir des projets inspirants, de se dire que c'est possible, de voir des gens qui ont fait ce parcours. Et après, on a un espace qui est plus compliqué à gérer pour moi, c'est celui de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'extrême droite s'est saisie de cette thématique-là. Et c'est aussi une des choses qui m'a fait faire le choix d'écrire ce livre, c'est qu'en aucun cas, je veux laisser cet espace à l'extrême droite. Donc eux, sur un truc un peu... conservateur, et du coup la campagne c'est les traditions et les racines, quoi. Et ça, il faut absolument pas laisser ce terrain là donc c'est important que la voix des néo-ruraux qui est celle que je défends et donc qui est celle de l'autonomie, de la solidarité, de l'ouverture, soit entendue, parce qu'en aucun cas il faudrait leur laisser ce terrain là
Et à l'inverse, est-ce que tu as des critiques, une sorte d'opposition? Est-ce que ce que t'amènes comme réflexion, ça braque des gens?
Quand ça braque les gens, c'est sur un registre vraiment précis. C'est celui qu'ils se sentent jugés dans le fait d'aimer leur vie urbaine. Ils se sentent montrés du doigt comme des vilains consuméristes et tout ça. Bon, moi, je leur laisse, hein, parce que ça, c'est des choses qui ne m'appartiennent pas, ces débats intérieurs. En fait, c'est des gens qui sont sensibles aux projets qu'on veut, des gens comme nous peuvent mener, mais qui ne se sentent pas à même de le faire eux-mêmes et qui, du coup, vivent mal cette dissonance et qui, du coup, vont dire « Oui, mais c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est trop compliqué et puis on n'est pas prêt et puis vous ne pouvez pas nous demander ça » comme si on leur demandait, en fait, alors que c'est pas le cas, en fait, c'est pas le cas. Et puis, tout le monde ne peut pas vivre à la campagne. Moi, je vais être claire. Aujourd'hui, dans les sondages IFOP, avant la crise, hein, pas aujourd'hui, avant la crise, il y avait 81% des urbains qui disaient qu'ils vivaient pas en ville par choix et qu'ils envisageaient un autre mode de vie. 19% des gens qui étaient satisfaits de vivre en ville, c'était leur mode de vie, c'était leur bonheur, c'était leur plaisir, etc. Ça fait quand même pas mal de candidats potentiels au départ, hein. Donc moi, en aucun cas, je juge ceux qui sont heureux de vivre en ville. Si ils y sont heureux, qu'ils y sont bien et qu'ils s'y sentent résilients par rapport aux changements qui peuvent arriver dans les années qui viennent, ben super, c'est super pour eux en vrai, c'est ok. Mais sauf que ce que je pense et ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance aujourd'hui et qui ont l'impression d'être dans une impasse. Or, il y a une option pour eux, mais une option pour nous aussi, parce que nous, dans les territoires ruraux, on a besoin de ces énergies, on a besoin de ces gens. Donc il y a pas, ben voilà, pourquoi est-ce qu'on hésiterait?
Mais j'ai une vraie question sur qui est l'opposition idéologique à tout ce que tu racontes. Parce que là, depuis près d'une heure maintenant, on parle de faire un choix pour soi, pour l'environnement, de qualité de vie. Enfin, tout ce que tu exposes depuis près d'une heure, c'est très positif. Qui ça défrise en réalité? Qui est l'opposition idéologique? Qui sont les agitateurs d'opinion ou, je ne sais pas, des représentants, des experts, je ne sais pas. Qui est l'opposition à ce que tu racontes?
Ben, ce qui est sûr, c'est que le fait qu'on soit raillé, souvent, les néo-ruraux, c'est-à-dire on va te dire « Ah, tu vas aller lever des chaises dans le Larzac, de toute façon, vous les beatniks, de toute façon... » C'est pas un hasard, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition frontale. Moi, je ne me positionne pas sur un sujet où je vais avoir une opposition frontale. Mais on est marginalisé. Et d'ailleurs, on est soit folklorisé, c'est-à-dire, voilà, c'est l'iconographie de la pub du Crédit Agricole avec les bottes propres, la chemise à carreaux, le chien à côté du beau tracteur, tu vois. Donc, en fait, quand on te folklorise, t'as plus de discours, t'as juste une image. Et puis, il y a la catégorisation. Donc, le fait de dire, oui, mais de toute façon, ça, c'est un truc pour les alterno-bitniks qui mangent des graines et qui, voilà. Et du coup, il n'y a pas de place pour que des gens puissent se projeter d'une autre manière de vivre la ruralité. Par exemple, je sais pas, ici, il y a un couple d'informaticiens qui vient de s'installer, qui a la fibre à la GACI, donc parce que quand même l'accès à la technologie est quand même un sujet. Bah voilà, en fait, ils en avaient marre de faire du développement web. Ils travaillent où ils veulent dans le monde pour faire ça, en fait. Il se trouve qu'ils ont juste à poser leurs fesses à un endroit et avoir une connexion et ils peuvent travailler où ils veulent. Ben voilà, ils ont envie d'avoir un autre cadre de vie que leur appart en ville et ils s'installent. Et en fait, ces schémas-là, ils ne sont pas mis en avant. Voilà, y a un jeune couple aussi qui s'est installé dans mon village. Ils n'ont pas de voiture, ce qui est quand même pas commun. Ça fait 6 ans qu'ils habitent là. Lui est musicien, elle est sophrologue. Ils ne sont pas le cliché de la néo-ruralité. Mais le fait qu'on ait envie de donner une seule image de cet espace-là, ça nous met dans une position... Voilà, c'est mignon, quoi. Il faut que ce soit mignon. Il ne faut surtout pas qu'on remette trop en cause le système, hein, parce que la réalité de ce qu'on propose est quand même relativement radicale. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, s'il y a plein de gens qui se cassent des villes, qui refusent la consommation, qui s'organisent de manière autonome sur les territoires, qui n'ont plus besoin de consommer en masse, qui n'ont plus besoin d'aller au supermarché tous les jours, qui ne vont pas faire la queue devant le McDo, parce qu'en fait, de toute façon, c'est à 40 bornes, ben en fait, il se trouve qu'il y a quand même petite opposition de la part de la société de consommation qui risque d'émerger. Mais on verra, on verra.
Et est-ce que depuis ta nouvelle vie, du coup, t'as eu des moments de découragement ? Et si oui, comment tu les as dépassés ?
Oui, alors, ça c'est quand même important à dire, parce que ça va avec la folklorisation. C'est-à-dire que les animaux, piou-piou, lifestyle, Instagram, tout ça, ça cache la réalité de ce que c'est qu'une vie autonome. Et c'est aussi pour ça que je parle d'autonomie, mais jamais d'autarcie. Parce qu'en fait, c'est difficile. Choisir un chemin qui va contre le chemin général de la société, c'est difficile. Alors nous, on l'a choisi de manière très radicale, il y a 10 ans, donc à une période où c'était pas à la mode, on va dire. Voilà, aujourd'hui, il y a quand même la presse se saisit, des néo-ruraux parlent, des gens qui font des changements de vie, de la quête de sens, etc. Il y a 10 ans, c'était pas le cas, hein, donc on était quand même plus jugés. Il y avait beaucoup de doutes sur notre capacité à réussir, et puis en fait, on inventait aussi beaucoup de choses, donc c'était nécessairement un peu compliqué. Donc oui, on a rencontré des difficultés. Et oui, c'est difficile. Et oui, il y a une part de renoncement. Et c'est bien pour ça qu'il y a plein de gens qui se bloquent aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde a beau savoir que télécharger une appli pour gagner 5 minutes par jour, mais perdre une heure parce que finalement on va être complètement dépendant du truc, filer ses données, savoir qu'elles sont utilisées, etc., c'est pas bien, ben on est tenté de le faire parce que ça va vous faciliter la vie, quoi. On a été tellement construits sur ces schémas-là que refuser et se démerder, être débrouillard, s'entraider, etc., ça demande... Alors le courage, c'est pas un mot que j'aime bien employer, parce que pour moi c'est plus courageux de rester dans un boulot de bureau qu'on déteste, à se faire harceler par son patron et d'avoir une vie qui vous convient pas, plutôt que de devoir se sortir un peu les doigts pour aller couper du bois. Mais voilà, ça demande un peu de persévérance et ça demande de se dire de temps en temps, quand c'est difficile, est-ce que j'envisagerais réellement de faire le chemin inverse ? La réponse est non. Alors après, c'est des parcours de vie, hein. Il y a des gens que j'ai rencontrés qui ont fait le chemin inverse. Parce qu'à un moment, aussi, voilà, les enfants avaient grandi, le sentiment de solitude, ou aussi des évolutions dans des choix plus intimes qui font que bon, bah, on met plus les arbitrages au même endroit. Mais moi, je suis pour la fluidité, c'est-à-dire qu'en aucun cas, je considère que le choix de l'exode urbain, c'est un choix de rupture. C'est-à-dire que c'est, pour moi, ça, c'est un des trucs essentiels, par exemple, des clichés qu'on a sur les années 70, donc sur la vie communautaire et autarcique des communautés, bah, les fameux chefs dans l'Arzac, alors que, comme le disait une copine éleveuse, non, mais ici, il n'y a pas de chef, il y a des brebis, les amis. Donc, oui, il y avait ce truc. Il faut se dire que les gens qui sont partis dans les années 70, c'était les 30 glorieuses. Donc, c'était la société de consommation à gogo, la ville, c'est la solution, la ville, c'est l'alpha et l'oméga de tout. Quitte ta campagne de ringard où il n'y a pas l'eau et l'électricité et viens habiter dans un HLM, ça va être génial. Ceux qui faisaient le chemin pour dire non, mais votre truc, ça ne nous parle pas du tout, c'est pas ce qu'on veut, ça ne nous apportera pas le bonheur de bosser à l'usine, les gars, on ne veut pas de ça, on va faire autre chose. Ils étaient nécessairement marginalisés, ils ont choisi d'être plutôt dans des espaces militants où on se renforce les uns les autres pour se sentir légitime à faire ce qu'on fait. Aujourd'hui, c'est des choix beaucoup plus individuels, beaucoup plus intimes, et puis c'est des gens différents aussi. Enfin voilà. Donc comme on est plus connecté, qu'on a un rapport aux réseaux sociaux, qu'on a un rapport au lien social aussi qui est différent, évidemment, ça rend les choses plus fluides. Et moi, je suis fière d'être rurale, mais malgré tout, je viens régulièrement en ville. Alors voilà, des fois j'y ai du plaisir, des fois ça m'angoisse un peu et c'est difficile, mais j'ai pas rompu les liens. Et en fait, je pense que c'est un truc qui est essentiel. Et c'est un sens essentiel pour la campagne parce que ça apporte de la visibilité, de la légitimité à mon territoire, par exemple. Parce que quand on passe dans les médias, eh ben, le maire, il est content qu'on dise du bien de Sixuraf dans les médias. Et donc, en fait, ça apporte des choses positives à mon territoire. Mais moi aussi, ça m'apporte un peu de respiration, de la réflexion. Et voilà. Et donc, du coup, le maintien du lien, il est, pour moi, il est essentiel de ce chemin d'exode urbain. Et donc aussi de la possibilité d'avoir des retours temporaires ou... Voilà, mais en tout cas, que être en ville ou être à la campagne soit un choix. Pour moi, c'est ça le plus essentiel.
L'expression à la mode, c'est le monde d'après. Qu'est-ce que t'inspire la période qu'on traverse actuellement ? Plutôt de l'espoir de changement ou plutôt une peur que les gens pensent d'abord à leur propre survie ?
Alors moi, je suis pas trop flippée par le truc survivaliste parce que je pense qu'on n'en est pas encore à ce stade-là, même si ça pourrait bien arriver là. Je sais pas, pénurie alimentaire, crise économique, ça craint quand même un peu du boudin. Mais je suis plus inquiète de l'incapacité des espaces de pouvoir de lâcher avec ce qu'ils avaient. Et que j'ai l'impression qu'il y a quand même une aspiration sociale, sociétale, notamment à de la justice sociale, par exemple, le fait qu'on paye enfin justement les infirmières, qu'on sauve l'hôpital. Voilà, les bases du contrat social, on va se dire, je suis prêt à lâcher une partie de ma liberté contre de la sécurité et contre un minimum de soins. On lâche beaucoup, beaucoup, beaucoup de liberté là, hein. On lâche énormément de liberté. Donc se pose très fort la question du contrat social, et donc les gens sont en attente de dire, ok, à un moment, là, tu me prends du pognon pour mes impôts, tu le donnes à l'infirmière. Là. Tu arrêtes de le donner en CICE et je sais pas quoi, ou grand groupe. L'infirmière là, celle qui a sauvé la vie de mon père, là, tu vas lui donner des sous à elle. Donc je pense que ça, c'est une aspiration qui est forte, et j'ai l'impression en tout cas que les espaces de pouvoir ne sont pas prêts. Que, en fait, là je vois des groupes, des think tanks de droite libérale j'aime bien le truc de la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire ils commencent à mettre les pieds dans le plat en mode vous n'aurez pas de congé, vous n'aurez pas de truc, puis après on dira juste non, on t'a niqué juste 2 jours, tu ne verras pas 6 mois, tu devrais être content. Donc, ils commencent à ouvrir des espaces de débat sur des trucs ultra scandaleux, ultra libéraux et tout ça, alors que on se disait que tout le monde espérait quand même, il y a pas tout le monde, mais une bonne proportion de gens qui sont en train de se dire non, mais là, il faut vraiment qu'on arrête, c'est quand même super grave le point où on en est. J'ai un énorme doute sur la capacité des gens qui sont aux manettes aujourd'hui, et j'entends pas forcément les politiques, hein, mais aussi les grandes entreprises qui ont le pognon et tout ça, de lâcher là-dessus. Et donc, quelque part, l'exode urbain, c'est aussi faire sécession, quoi. C'est aussi se dire... et pas de la relation politique, parce qu'en fait, ici, c'est hyper bien de faire de la politique sur un territoire, d'être élu d'une municipalité, de participer à la vie de sa communauté, etc. Mais en tout cas, de dire, votre système, là, moi, je consomme plus, j'y participe plus, en fait. J'y participe plus. Je viens faire autre chose, différemment.
Merci beaucoup, Claire. C'était passionnant. On arrive sur la fin de cette interview, on va te poser 3 questions que tu as choisies parmi notre petite liste. Et c'est moi qui commence. Le livre que t'aimerais relire pour la première fois, donc le découvrir à nouveau, ce serait lequel et pourquoi ?
Sans hésitation, c'est Regain de Giono. Le café-librairie a failli s'appeler comme ça, tellement ce livre m'a marqué. Et je dois dire que, là pour le coup, on est dans l'iconographie poétique, et en même temps tellement radical de la vie rurale. Ce livre, c'est magnifique, c'est une merveille. Et voilà, je sais qu'il y a un magazine de la néo-ruralité qui s'appelle Regain à cause de ça. Et vraiment, je pense que je ne suis pas la seule à avoir été touchée par cet ouvrage, et j'aimerais pouvoir le relire comme je l'ai lu la première fois. Je l'ai beaucoup relu d'ailleurs depuis. Mais l'émotion que ça m'a procurée à un moment qui était par ailleurs difficile pour moi, a largement contribué à ce que je suis aujourd'hui.
Et quelqu'un qui voudrait faire la même chose que toi, qu'est-ce que tu lui dirais ? Quel conseil tu lui donnerais, même concrètement ?
Alors, quelqu'un qui voudrait faire la même chose que moi, je lui dirais que c'est impossible, parce que chacun fait ce qu'il peut, ce qu'il est, qu'il n'y a pas de modèle. Ce que je lui dirais, c'est d'écouter la petite voix qui est à l'intérieur de lui, qui lui dit qu'il y a quelque chose... Peut-être c'est du côté de la paysannerie, peut-être c'est du côté de l'accueil de public, peut-être c'est du côté de... Je ne sais pas ce qui peut lui ressembler, mais... Ce que je dirais, c'est d'écouter cette petite voix et de travailler autour de ça. Nous, notre projet, il a énormément évolué depuis qu'on s'est installé. Il s'est construit, déconstruit, reconstruit. Et je pense qu'il n'y a pas de recette magique. En aucun cas, il y a des recettes magiques. Mais il faut accepter de se poser les bonnes questions. Et juste un conseil, s'il y en a un, celui que je donne aux porteurs de projets. Faites un carnet de rêves. Écrivez quelque part ce qui vous motive et ce qui vous anime dans ce choix de vie nouveau que vous allez faire, parce que la réalité va toujours mettre à l'épreuve ces espoirs-là. Hein, c'est GB dans l'an 01 qui dit faut mettre beaucoup d'utopie au départ parce que ça réduit pas mal à la cuisson. Voilà, en fait, pour moi, c'est essentiel. Le carnet de rêve, c'est ce qu'on projette de ce que peut être une vie nouvelle. Et en fait, évidemment, il y aura des aléas et ce ne sera pas comme vous voulez, etc. Mais il faut le dessiner, il faut l'écrire, il faut le co-construire si on le fait avec d'autres gens. Et ce temps-là qui est donné à l'espoir de construire quelque chose pour soi, c'est déjà un truc incroyable à vivre. Et c'est un levier énorme du changement. Parce qu'au bout d'un moment, ça bout tellement, le désir devient tellement fort qu'il n'y a plus d'option. Il n'y a plus l'option de rester à l'état où on est au départ.
Et enfin, qu'est-ce que tu aurais voulu savoir quand tu as commencé ? Qu'est-ce qui t'aurait fait gagner du temps dans la vie ?
Eh bien, j'ai choisi cette question parce que je pense que c'est une mauvaise question. On ne peut pas gagner du temps dans la vie. Tout ce que je devais savoir, on me l'a dit au départ. Par exemple, on m'a dit « ça sera long, ce sera beaucoup plus compliqué que ce que vous croyez ». Et moi, je dis « mais non, carrément pas, regardez, on va faire ça, ça, ça ». Et puis en fait, c'est pas du tout passé comme ça. Donc maintenant, ça fait 10 ans qu'on s'est lancé. Et tous les conseils, on me les avait donnés. Mais en fait, j'étais pas capable de les entendre. Donc la question, elle est pas là. Elle est se faire confiance, être persévérant et se dire qu'en fait, ben, quand il y a un problème, il y a forcément une solution. Donc on va trouver la solution. Et aller chercher la ressource à l'extérieur, pour nous, ça a été un truc essentiel de la résilience. On n'aurait jamais fait ce projet tout seul. Jamais. C'est impossible. On n'en serait pas là si on n'avait pas été entouré, soutenu. Enfin voilà, les propriétaires, les copropriétaires de la ferme, on est 126 copropriétaires en propriété collective. Tous les membres de l'association qui ont permis de construire le café-librairie, les cigales qui nous ont soutenus au départ, tous les donateurs des campagnes de financement participatif qu'on a menées pour nous soutenir dans les moments difficiles. Enfin voilà, tous ces gens qui étaient autour de nous, ça nous a donné une force incroyable. On ne fait pas les choses seuls. Pour moi, c'est clair, l'autonomie, c'est l'entraide.
Merci beaucoup Claire. Je rappelle, lettre du néo-rural au candidat à l'exode urbain à lire sur Libération. Et cet été, Exode urbain manifeste pour une ruralité positive. Tu nous feras signe quand ce sera disponible en librairie pour qu'on puisse repartager évidemment cette émission sur tous nos réseaux sociaux. Merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça.
Bah merci à vous. C'était un peu long, hein, mais...
C'est fait pour.
C'était passionnant.
Merci beaucoup, vraiment.
Vous êtes un ou une activiste dans l'âme ? Écrivez-nous à tutoconquérirlemonde@gmail.com pour nous parler de votre projet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller l'écrire sur iTunes dans un commentaire accompagné de 5 étoiles. Ça nous aide grandement à faire connaître cette émission. Ça nous aide encore plus si vous envoyez le lien à vos proches susceptibles d'être intéressés. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine. Activiste est une émission d'interview portrait-projet de celles et ceux qui changent le monde en commençant tout autour d'eux. Activiste est entièrement réalisé, produit et présenté par Esther Meunier, alias Esther Reporter, sur YouTube et sur Instagram, et moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, Activiste et Les Impertinentes, sur Instagram @conquérir.le.monde et dans ma newsletter bit.ly/clembodoc. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine.